and roll music and why I preach against it. I believe that it is a contributing factor to our juvenile delinquency of today.
Rockologie.
Bonsoir. Émission de Rockologie qui ce soir sera bien entendu consacrée à la pop progressive. Et oui, ça je lâche le mot. Des années 70, alors prenez une base héritée de l'héritage de la musique pop 60s des années 60. Prenez-la et puis trempez-la dans un bain de cocaïne purement distillée dans les années 70 et vous obtenez une espèce de mélasse à cheval entre la power pop et ce qu'on appellera un petit peu plus par la face des choses l'adult oriented rock. C'est pas moi qui l'ont dit, c'est les journalistes. On va développer ce sujet un petit peu abracadabrant tout au long de cette heure avec principalement des groupes qui avaient émergé dans les années 70, soit de groupes qui existaient dans les années 60, ou soit vraiment des néophytes. Et puis le voyage en vaut la chandelle, puisque ça va être dansant, ça va être festif, et c'est encore l'été. Donc ça tombe bien, restez bien à l'écoute de Rockologie, l'émission à remonter l'histoire du rock, qui ce soir fête le 40e anniversaire de la pop progressive, avec en ouverture un groupe qui est plus actuel que vieux, les Spite Genius, qui eux mariaient l'art, on va dire, de la chanson pop parfaite de XTC en la commandant à leur sauce. Et ça donne des petites ritournelles pop assez rigolotes. Ils en sont déjà à leur cinquième album. Alors, ils sont anglais, ils sont peut-être du Nord, je ne sais pas exactement avec précision leur origine. Quoi qu'il en soit, on écoute un extrait de leur premier album qui s'appelle Song from Devil Typist et c'est produit sur leur label Wamo Excellent Records.
At the French I took, I know more than can be healthy by biology. I know more than Stephen Hawking by philosophy. And differential calculus is easy as pie. And I know all the kings of England till the day that I die. And I could use a slide rule since the day I was born. But when little boy blue wants to blow on his horn, the score year of 10 of elaborate training goes straight out the window. And all that's remaining, fleshy mass in space. A Superman is shoveling with a human face. I said a lean, mean,
gene machine. You better put it down, you don't know where it's been. Because I want that girl, I want that girl, I want that. Oh Lord above, tell me, how can I adjust to garden center Saturdays and tools you can trust? Mortgages and shortages of everything nice. A waterproof receptacle of sugar and spice. When the world is full of girls and they look like her. The world is full of girls and they look like her. The world is full of girls and they look like. Yeah!
I want that girl, Pat Genius dans Rockology, l'émission à remonter l'histoire du rock. Et puis bah, comme je vous l'ai promis en début d'émission, on va attaquer le gros dossier de cette semaine du soir en évoquant justement bah, l'existence d'un genre un petit peu hybride et un petit peu anachronique si j'ose dire, puisque pop ne fait pas forcément bon ménage avec le rock progressif. Parce que pour rappeler un petit peu la jeunesse des deux styles, pop étant bien plus simple que le rock progressif. Le rock progressif est un rock, comme il le dit, progressif dans les accords et puis surtout dans l'étalage des prouesses et puis surtout des capacités de chaque musicien pour en faire 3 tonnes, alors que la pop est, on va dire par essence, bien plus simple et virtuose. Klaatu, peut-être le groupe qui incarne le mieux cette étiquette complètement biscornue de cette étiquette musicale, c'est un groupe qui nous venait du Canada et qui avait un petit peu pris... racine dans le sérail Beatlesien, si j'ose dire. Ils avaient énormément égoutté sur les années 60 un groupe qui s'appelait les Beatles, que tout le monde connaît. Ils en avaient, on va dire, rapporté la trame mélodique et puis ils avaient incorporé des longues séquences instrumentales à tel point que sur le deuxième album, il y a des titres qui tirent sur une durée de plus de 9 à 10 minutes, quelque chose de quelque peu un petit peu indigeste pour les amateurs de pop, comme ils se respectent. Mais ce qui faisait un petit peu la particularité du groupe, c'est qu'ils chantaient à 3 voix, ce qui est un peu normal pour des groupes qui se réclament de cet héritage sonore. Il y avait des harmonies vocales. Et puis le premier album qui s'appelait tout simplement Klaatu était bien plus simple dans sa portée, puisqu'il comportait le classique Killing Occupant of Interplanetary Craft. Excusez-moi pour l'accent, hein, c'est le dentier, on n'y peut rien. Donc, ultra mélodique, ultra accrocheuse, des nappes de synthétiseurs, et puis surtout, ils avaient réussi à faire le buzz à tel point que la critique complètement désarçonnée les avait quand même confondus avec les Beatles, ce qui n'est pas rien, et ça leur avait valu un coup de pouce pour signer chez Capitol Records, ce qui n'est pas rien. Alors, on écoute de Klaatu, Sub Rosa Subway, un groupe qui aura une profonde influence sur un autre groupe qui lui vient de Californie et qui était actif dans les années 90 et qui officiait sous le nom de Jellyfish, le fameux groupe de power pop des frères Manning.
Back in 1870, just beneath the great white way, Alfred Beach works secretly, risking all to write a dream. This wind machine, New York City and the
Let it break.
L'émission à monter l'histoire du rock de Campus Grenoble 90.8 qui ce soir, on va dire, célèbre un peu à sa manière les affres de la pop progressive avec un instant Badfinger dans un titre relativement long puisqu'il faisait 5 minutes 37 au compteur et qui proposait une suite d'accords vraiment digne du rock progressif mais babalourd pour dessous. Badfinger, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu le groupe qui a donné suite justement aux Beatles qui ont splitté en 70. Le flambeau a été reporté sur la décennie suivante par les Badfinger, qui était le groupe de Pete Ham, de Tom Evans, il y avait Ron Griffin et puis Mike Gibbons, quatre jeunes gens originaires aussi de Liverpool et qui avaient été signés en premier lieu sur le label des Beatles, Apple, pour trois albums qui seront par la suite considérés comme des classiques de la power pop. Et puis après, fort de leur succès, parce qu'ils ont toujours été un petit peu célébrés comme des perdants du fait du suicide un petit peu prématuré de Pete Ham. Mais il ne faut pas non plus déconner, parce qu'ils ont quand même vendu des disques, ce qui n'est pas rien, et ça leur a permis d'acheter du matériel, et puis surtout de signer sur une majeure, et puis d'avoir une lisibilité au niveau mondial. Et puis ils ont eu un énorme succès aux États-Unis. Donc voilà. Badfinger, Meanwhile, Back at the Ranch, Should I Smoke, un titre de 5 minutes qui proposait justement une suite d'accords, tout en progression avec des ponts comme ça. Des choses qu'on n'avait peut-être pas l'habitude d'écouter chez les Beatles, mais Badfinger est un groupe intéressant pour celui qui s'intéresse évidemment au rock, et puis au rock classique, comme on dit, un petit peu péjorativement. On va rester toujours dans ce registre un petit peu power pop, mais là avec un côté un peu plus synthétique. Photomaker, qui était un super groupe sur le papier, il y avait un ancien Raspberries, Wally Breezant, le fameux guitariste de la formation de Cleveland. Les Raspberries, c'était eux un petit peu les alter ego de Badfinger, mais pour le marché américain, originaire des États-Unis, qui eux aussi s'inspiraient largement du trésor sonore des années 60 en provenance de l'Angleterre, en y incorporant une bonne couche de hard rock comme il se doit, et puis appuyé par des harmonies vocales. Voilà grosso modo comment on peut schématiser et puis définir ce genre musical hybride. Mais pour l'heure, le AOR, je vous l'ai vendu en début de mission, il y a un côté un petit peu gringalé derrière, puisqu'il y avait énormément de synthétiseurs, et puis il proposait une espèce de rock FM embryonnaire qui allait devenir un petit peu celui qui allait peupler la bande FM tout au long des années 80. Photomaker, donc trois albums. Alors, une autre chose qui a son importance dans le groupe originaire de New York, il y avait deux anciens Rascals qui, eux, étaient un groupe qui officiait plutôt dans un registre blue-eyed soul et qui avait vraiment écrit de très belles choses dans les années 60. Et puis, ce qui a porté un petit peu à une stature assez solide à l'édifice sonore de Photomaker, c'était des musiciens chevronnés. Et ils faisaient très, très belles choses. C'est évidemment sorti chez Atlantic, une major, et puis ça donnait ça. Miles Away.
I'm so
y a vraiment un titre qui vérifie bien la définition de l'émission de ce soir, c'est bien celui-ci, Aviary. Vous êtes toujours à bord de Rockologie, l'émission à monter l'histoire du rock de Radio Campus 90.8 ou www.campus Grenoble si vous nous écoutez derrière votre écran d'ordinateur. Aviary, donc, pour en revenir à ce cas un petit peu d'un groupe à l'existence plus qu'éphémère, quoique un album qui est sorti au tournant des années 60, 79, et qui s'inscrivait justement dans cette mouvance AOR, pomp rock comme ils disent chez les Anglais, et c'est pas moi qui le dis, c'est eux, et qui proposait justement un croisement complètement anachronique entre Queen. Évidemment, c'est un petit peu la première référence qui vient à l'esprit quand vous écoutez ces espèces d'éclats de voix et puis ces guitares tonitruantes. Et puis derrière, il y avait un côté assez grandiose et pompeux dans les arrangements. Ça avait un petit côté. Ils en faisaient trop sans en faire beaucoup. C'était vraiment bien dosé. C'est un petit peu ce qui peut caractériser la power pop. C'est dans certains cas, ça peut être un genre assez borderline qui peut permettre à certains artistes de faire quelque chose de bien, d'extrêmement compétent, en dérapant sur un côté un petit peu rigolo et puis surtout décalé. Puis parlons-en justement du décalé avec Electric Light Orchestra, un autre disciple des Beatles en la personne de Jeff Lynne, qui lui aussi aura une recherche tout au long des années 70, une quête absolue du titre parfait de la chanson pop, comme l'avait une quête qu'avait pu poursuivre les Beatles dans une mesure un petit peu moins grandiloquente et surtout avec des moyens beaucoup plus rudimentaires. Et l'eau, eux, ils en mettaient de partout, il faut le dire. Ils avaient un usage intensif des synthétiseurs. Ils aimaient en faire 3 tonnes. Et puis, j'ai ressorti l'album de 79. Et c'est assez raccord sur les deux années. Hein. 79 avec Aviary et 79 avec Discovery de Hello. Et puis, je vous ai dégoté le single « Don't Break Me Down ». C'est comme ça.
I'm telling you.
Rockologie, émission consacrée à la pop progressive, ça je l'avais bien vendu. Avec un instant Barnaby Bye qui était un petit peu le groupe de sortie de scène d'un vétéran de la scène psyché, Pepi Castro, qui est officier au sein des Blue Magoos, qui était vraiment un petit peu des chefs de file dans les années 60 d'un rock psyché, bah ça y est, je ne sais plus quoi dire, un petit peu garage qui avait pour particularité de reprendre un petit peu des classiques puis là les remodeler un peu leur sauce, comme le Tobacco Road qui donnera en fait une matière à un premier album qui restera dans l'histoire du rock comme étant des premier manifeste, j'exagère un petit peu, un des grands manifestes du rock garage à tendance psyché de la deuxième moitié des années 60 et qui fera vraisemblablement partie du contingent de tous les groupes qu'on pourrait retrouver chez Nuggets, la compilation de Lenny Kay qui s'occupera justement de faire vivre un petit peu le genre musical, alors que dans les années 70, comme on l'avait dit, était quand même assez dévoué à la cause progressive. Pour en venir aussi au cas de Barnaby Bye, qui était un petit peu un groupe de deuxième division, qui abritait les débuts des deux frères Alesi Brothers, Billy et Bobby. Les parents, ils ont quand même des goûts de chiottes en termes de nom. Les Alesi Brothers, les Alesi. Et qui avaient, eux, fait un énorme travail au niveau des harmonies vocales, ce qui donnera lieu à toute une suite à succès, et ils auront pas mal de tubes sur leur nom, et ça serait un petit, ça peut être considéré comme une réponse un petit peu indirecte au rock californien ultra calibré d'un Steely Dan. Eux, ils étaient quand même un peu plus cool, un peu plus, alors que Steely Dan avec une démarche bien plus arty, bien plus carré, bien plus jazzy. Eux, ils étaient vraiment à la fraîche avec les pâquerettes dans les cheveux et puis les tatanes et les chapeaux de paille. Donc voilà, c'était un petit peu une suite débonnaire et puis bon enfant qu'ils pouvaient donner à cet épisode, on va dire, plus qu'éphémère, puisqu'ils auront à leur actif deux albums. Le premier album, je crois que c'est un éponyme, et le deuxième, dont je vais extraire Tumble In. Et puis, tout n'est pas bon, hein, il faut le dire. Il y a des choses assez immédiates, comme ce single potentiel qui rappelle les heures de gloire de la power pop des Raspberries. On va rester toujours sur le même registre sonore. On va s'envoler du côté du Canada avec un groupe qui lui aussi officiera en premier lieu dans une veine très power pop avant de s'embourber dans une hour sans intérêt. April Wine, qui eux puisaient leurs racines chez les Badfinger, mais pas que. Et ils avaient pondu un album en 74 qui s'appelait Stand Back et qui osait quand même donner la réplique à un album tel que Badfinger No Dice. Et puis il y avait dans la voix du chanteur quelque chose d'assez langoureux et très beau à l'écoute, hein, qui rappelle le timbre très voilé et très, très délicat d'un Colin Blueston, le chanteur des Zombies. April Wine avec I Wouldn't Want to Lose Your Love. To Lose Your Love, oulala. Oh, Toujours Rockologie, toujours à bord de cette machine assez redoutable de pop addictive et puis de changement d'accords un petit peu improvisé. À l'instant, c'était les Hudson Brothers, un groupe qui eux aussi avait une grosse particularité. C'était trois frères issus de la même fratrie, quasiment jumeaux, avec des traits physiques assez communs. Évidemment, c'était des jumeaux. Mais ils avaient une autre prouesse dans leurs escarcelles, c'est qu'ils animaient entre 75 et 77, enfin les dates je m'en souviens plus tellement et puis on s'en fout. Ils animaient justement sur la télévision américaine un show à destination du public enfantin qui s'appelait Hustle Dipple Show, face où je vous le dis évidemment de mémoire. Enfin bon, Hudson Brothers, vous tapez ça sur votre moteur de recherche ou YouTube, vous tomberez sur les vidéos d'époque. Alors, ils faisaient les singes derrière la caméra et puis ils chantaient en direct. Et puis ils composaient des choses assez addictives comme ce titre La 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 Leina qui puisait dans les racines évidemment de la pop des années 60. Je pense notamment aux Hollies pour les harmonies vocales et puis les accords de guitare. Et électroacoustique et puis cette mélodie très très addictive qui faisait un petit peu partie de l'univers de la power pop. Hudson Brothers, donc ils ont une existence qui s'étale de 70 jusqu'à 78. Ne vous amusez pas à trouver le dernier album qui était sorti chez Aristar Records, puisque c'est une purge sans nom. Les trois premiers albums seulement sont vraiment valables, qui étaient sortis sur trois différents labels. Et puis une autre chose, ils avaient sympathisé avec le parolier de Elton John, Bernie Taupin, qui leur avait valu de signer sur le label de Elton John, Rocket Records. Voilà pour l'histoire des Hudson Brothers, donc une excellente adresse pour les amateurs de pop bien sentis. On va aller du côté New York avec un groupe qui vivait un petit peu sous les restes des Left Banks, les Beckys, qui était le projet de studio du maître à penser de la formation new-yorkaise, qui était Michael Brown, qui s'était amusé un petit peu à faire une chose un peu plus rock de ce qu'il avait fait avec son groupe précédent, les Stories. Les Beckys, eux, étaient vraiment ancrés dans un rock pur et dur, avec toujours cette appétence pour les harmonies, les choses harmonieuses, puis les ultra mélodiques ultra léchées, et puis surtout mélodique. One of His Days, c'était une idée puis un titre qui était vraiment très bien troussé sur leur unique album chez Sire Records en 76. Voilà. Allez, Becky, c'est maintenant. We can have love now. Et oui, ça c'est du décalage incontrôlé, une fin cut comme on ne l'attend pas. À l'instant, dans cette émission spéciale Free Pop, c'est notre ami Bertrand, Voix de Garage, qui nous a trouvé cette étiquette ô combien pertinente. Bebop Deluxe, et oui, les noms de groupe, c'est pas moi qui les ai fait ni les ai inventés, j'y peux rien. Quoi qu'il en soit, c'était le groupe de Bill Nelson, un excellent guitariste et puis une certaine forme d'érudition dans sa recherche sonore. Et oui, tout est dit. J'en fais peut-être un peu trop, mais je m'en fous. Hein. Je suis un petit peu. J'en suis à ma deuxième bière. Nananer. Drastic Plastic, ça c'était le quatrième album ou le cinquième album de la formation anglaise qui servait à un rock tout azimuté entre Roxy Music et puis du rock progressif, sans être balourd évidemment. Et il y avait des petites vignettes comme ça, très, très addictives, très populaires, comme ce Dangerous Stranger. Et puis là, on va se quitter avec ma dernière cartouche, n'est-ce pas, avant que je sois mort. C'est Vance et Tower. On se quitte en beauté avec un album qui est situé entre Supertramp et oui, la transition ne va pas être de tout repos, monsieur Stéphane qui est avec nous ce soir, évidemment, comme tout le mercredi.
Bonsoir, chers auditeurs, c'est toujours un plaisir d'être avec toi, Cyril.
On va pas bouder notre plaisir. Donc, Vance and Tower avec City Boys, et puis juste derrière, il y aura Pastoral Mechanics en direct.
Station on a Friday night, he was looking to make a connection. Then he met a little lady who was wasting time. They were going in the same direction. City boy found someone to relate to. City girl found a boy who was kind. Two lonely young hearts can now be together.
C'était donc les derniers instants d'existence de Rocoli pour cette semaine. On se dit à la semaine prochaine. Place à Pastoral Mechanics. Juste le temps pour moi de lancer le générique et puis de laisser place à Stéphane pour une heure de rock'n'roll, de country et de blues.